Bonjour tout le monde. Ça va bien ce matin?
Merci.
Content de vous voir. C'était tellement un chant touchant, le dernier chant, n'est-ce pas? J'étais touché d'entendre vos voix, puis de me dire, nous sommes tous là réunis comme des enfants devant notre Père, puis de recevoir, comme Richard disait, son amour et de retourner son amour. Donc, pour ceux qui nous visitent, bienvenue. Et puis, nous, depuis plusieurs mois, on est dans une série sur la personne de David, que Dieu appelle un homme selon son cœur. Moi, j'ai dit un cœur qui bat pour Dieu. Ça revient au même. Et puis, où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire de David? Bien, on est rendu à un point de transition de la vie de David, où ce que pendant des années, il a été en fuite de Saül, il se cachait pour sa vie. Dieu a amené des hommes autour de lui. Et tranquillement, de plus en plus d'hommes se sont regroupés autour de David, de sorte qu'il s'est ramassé avec une petite armée de 600 hommes. Et puis, on a vu qu'à un moment donné, il s'était réfugié chez les Philistins. Il avait pris une mauvaise décision basée sur son monologue intérieur. On a été créé pour un dialogue avec Dieu, hein, vous vous rappelez? On a tous un monologue intérieur, mais on a été créé pour un dialogue, mes amis, pour un dialogue. Et David est un homme qui dialoguait avec Dieu, mais par moments, étant donné qu'il est un homme imparfait, bien, il a oublié le dialogue, puis il a écouté son monologue. Il a dit, un jour, Saül va avoir ma peau, et donc la meilleure chose pour moi, c'est de me réfugier chez les Philistins. Chose qu'il a faite, mais c'était basé sur un mensonge, parce que Dieu avait promis à David qu'il serait roi. Donc, s'il promet qu'il est roi, qu'il va devenir roi, il va faire quoi? Il va le protéger, hein? Et souvent dans nos vies, c'est ça, on prend des mauvaises décisions parce qu'on a écouté notre monologue puis on n'a pas été avec Dieu dialoguer dans notre situation. Hein? Pas vrai? Et puis là, David, ben, il s'est joint avec les Philistins pour aller attaquer Israël. Mais probablement qu'il n'aurait pas attaqué Israël. Mais finalement, les Philistins, ils ont dit, non, cet homme-là, il ne viendra pas avec nous, il pourra se revirer contre nous, puis c'est probablement le cas. Et fait qu'ils l'ont renvoyé. Et David avec ses hommes, à ce moment-là, il habitait dans un village qui s'appelle Tziklag, dont les ruines existent encore aujourd'hui. Et puis, pendant leur absence, qu'est-ce qui est arrivé? Les Amalécites, des gens des tribus du sud du désert, là, sont venus attaquer Tziklag. Ils l'ont saccagé, ils ont pris les gens captifs, ils ont emporté toutes les choses de valeur, puis ils ont brûlé la ville. Et là, David arrive avec ses hommes devant cette désolation-là. Et on a vu que David était vraiment dans un point très, très bas de sa vie. Ses hommes voulaient le tuer. Mais David, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers l'Éternel encore. Au lieu de s'abattre et de se recroqueviller sur lui-même, il se tourne vers l'Éternel et puisait de nouvelles forces, nous dit la Bible. De nouvelles forces. Et puis, ils s'en vont, ils consultent Dieu, et ils s'en vont à la poursuite de ces attaquants-là. Et puis, ils remportent une grande victoire, ils ramènent tous les captifs, ils rapportent tout le butin. Mais il y a 200 hommes qui sont restés en arrière parce qu'ils ne pouvaient pas continuer. Et au retour, bien, et des hommes dans l'armée ont dit, on ne partage pas avec vous autres, là, vous n'avez pas été à la bataille avec nous. David dit, on va partager avec nos frères. Ils ont gardé les bagages et puis c'est un petit détail dans la vie de David, mais qui en dit long. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que David était gracieux. Et ça vaut la peine qu'on s'arrête à cette notion-là. Une personne gracieuse. Quelle est la base de devenir une personne gracieuse? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être gracieux? Prions. Seigneur notre Dieu, devant toi, Seigneur, on veut faire silence ce matin. Quelle grâce, Seigneur, d'être dans ta présence, Dieu d'amour, maître de l'univers, créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Dieu trois fois saint, qui habite une lumière inaccessible, mais qui fait briller sa face sur nous, et qui a fait briller dans les ténèbres cette lumière, ton fils Jésus. Seigneur, donne-nous par ton esprit sagesse et révélation pour te connaître intimement, Père. On veut entendre ta voix ce matin. On repousse en ton nom, Seigneur Jésus, toute autre voix. La voix de ce monde, la voix de la chair et la voix de Satan. Saint-Esprit, révèle-nous la pensée intime du Père pour chacun de nous. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, David est gracieux avec ses hommes. Comment ça se fait? Comment ça se fait que David est un homme gracieux? Bien, on a vu qu'il a expérimenté la grâce lui-même. Pendant 1 an et 4 mois, il a vécu dans une sorte de mensonge, dans une sorte de compromis. Il était chez les Philistins, il jouait la comédie, on a vu. Il prétendait, il faisait comme voir qu'il était pour eux, mais c'était pas vrai, c'était un mensonge. Et il a vécu les conséquences, mais il s'est tourné vers Dieu parce qu'il croyait que Dieu est un Dieu gracieux. Il a expérimenté la grâce de Dieu et donc il peut le vivre envers les autres. On a vu la semaine passée que Jésus était, selon Jean 1, plein de grâce et de vérité. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. On a vu que la grâce, ça peut être un acte, tu sais, on te gracie de tes crimes, c'est un acte. Mais ici, on ne parle pas nécessairement juste d'un acte, on parle d'une disposition, on parle d'une attitude. Qui va produire des actes de grâce? Oui, mais on parle de Jésus qui est plein de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, nous dit Jean. Et nous avons tous reçu de lui et grâce sur grâce. Et l'autre version dit, une grâce par-dessus l'autre. Mais la source, c'est parce qu'il est gracieux. Il est gracieux. Fait que c'est ça, je veux que vous ayez la notion que je veux communiquer, une des notions importantes ce matin, c'est que grâce, là, c'est pas juste une action, c'est une disposition de cœur. C'est une attitude. Ça marche? On a vu la semaine passée que Jésus, et voici la phrase sommaire du message ce matin, un cœur qui bat pour Dieu est un cœur qui expérimente la grâce, la faveur de Dieu, et qui adopte cette même attitude envers les autres. C'est ça le punch. Fait que vous pouvez aller dîner. Je suis pas là. Vous avance, excusez. OK, on est rendu à la bonne place. Voilà. Là, on a vu que Jésus, dans Marc 10, les parents de certains enfants sont venus pour que Jésus les bénisse. Les apôtres, ils ont dit, non, s'il vous plaît. Jésus, là, vous voyez pas comment est-ce qu'il est occupé, là? Ben, il n'y a pas de temps pour ça, là, OK? C'est pas le temps, là. Et quelle a été la réaction de Jésus? Indigné. On a vu c'était quoi ça veut dire comme terme, indigné. C'est fort. Ça veut dire une réaction à une sorte d'injustice. C'est fort comme réaction. Ce que les disciples faisaient était contraire à la nature gracieuse de Jésus. Et ça ne marchait pas là. Et ils projetaient, les disciples, une mauvaise image de Jésus. Ça correspondait pas du tout avec sa vision des choses. Et donc, il est indigné. Et il dit, autrement, je vais le dire dans mes mots, tassez-vous de là. laissez les enfants venir vers moi. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les enfants dans ses bras. Il leur démontre l'affection physique. Et c'est marqué qu'il posa ses mains sur eux et il les bénit. Maintenant, pourquoi j'amène ça, ce passage-là? Parce que ça démontre la grâce de Jésus-Christ. Ça démontre sa disposition. Une grâce, une disposition de grâce, c'est une disposition favorable. Je suis favorable. Jésus est favorable envers ces enfants-là. Il veut leur communiquer quelque chose de bien. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça? Est-ce que les enfants ont fait quelque chose? Absolument rien. Ils n'ont rien fait pour mériter ça et ils n'ont rien fait pour récompenser ça. La grâce ne dépend pas de l'objet qui reçoit la grâce, mais du sujet qui fait grâce. Ça, c'est tellement important à saisir, mes amis. La grâce ne dépend pas de l'objet. Voyez-vous, les disciples regardaient, puis comme dans plusieurs sociétés, même aujourd'hui, les enfants n'avaient pas de statut dans la société. Il n'y avait comme pas d'importance. On les laissait jouer, puis s'occuper d'eux autres mêmes. Mais Jésus dit non. Moi, j'aime ces enfants-là. Moi, je veux les bénir, je veux les faire du bien. Il avait une attitude de grâce. Et même Jésus va plus loin, il dit que si quelqu'un n'a pas l'attitude d'un enfant, il ne peut pas rentrer dans le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une attitude d'enfant? De l'enfant qui vient à Jésus, il apporte quoi là? Il apporte quoi? Absolument rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait confiance. Il fait confiance. Et il dépend totalement, pas vrai? Il dépend totalement, là, de la personne qui veut le bénir. Et Jésus dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, comme ça, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Cette position de dépendance, de confiance totale en sa grâce, à moins qu'on devienne comme ça, impossible d'entrer. Essentiellement, ça revient à dire que tu dois croire que Dieu est bien disposé à ton égard. Qu'il veut t'accueillir, qu'il veut te bénir, qu'il veut te prendre dans ses bras d'amour, que tu ne peux rien lui offrir pour mériter cette faveur. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de croire à ça. On le croit avec notre tête, mais avec notre cœur, est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le vis vraiment? Moi, j'apprends à le vivre. Je ne suis pas rendu, mais j'apprends à le vivre de plus en plus. J'espère que c'est ton cas aussi. Tu dois simplement venir à lui tel que tu es. Tu n'as rien non plus que tu peux lui offrir en retour, sauf ton cœur, ton amour. Ta vie tout entière. Crois-tu en ton cœur que Dieu est disposé favorablement à ton égard? Le crois-tu réellement? On a vu ce verset la semaine dernière. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est fou, là. Pensez-y, là. Il appelle le trône de Dieu un trône de grâce. Wow! Quand on pense au trône de Dieu, là, je ne sais pas pour vous, mais la grâce, ce n'est pas le premier terme qui me vient à l'esprit. C'est plus justice, sainteté, puissance. Hein? C'est vrai, ces choses-là sont vraies, absolument vraies. Mais là, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, cette trône-là pour nous qui sommes en Christ, c'est une trône de grâce. Ça veut dire c'est caractérisé par la grâce. C'est un de ses attributs essentiels. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire parce qu'il est obligé, là. Tu sais? Bien obligé. Ah, OK, là, tu sais. Ouais, tu étais assez bon, je vais te... je vais te laisser faire telle affaire. Non, non. Puis, c'est dans quel contexte que l'auteur de l'Épître dit ça? C'est dans le contexte que Jésus est devenu chair et puis qu'il a expérimenté exactement ce que nous vivons et qu'il peut donc compatir à nos faiblesses. Merci. À nos faiblesses. C'est pour ça. Le trône de jugement est maintenant un trône de grâce. Non seulement pour le pardon de tes péchés, mais pour être secouru, qu'est-ce qu'il dit ici? Pour être secouru, pour trouver compassion et grâce, faveur, lorsqu'on a besoin. Tu as besoin de support, Dieu veut te le donner. Tu as besoin de courage, Dieu veut te le donner. Tu as besoin d'être consolé, Dieu veut te le donner. Approche-toi de lui, il veut te donner ces choses-là parce qu'il est favorable à ton égard. Son attitude est propice. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Arche de l'Alliance. Hein? Vous vous rappelez l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint, là? Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance? Dis quelqu'un, il y avait trois choses. Les tables de Moïse, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et la manne. Excellent. Mais bon, l'Arche de l'Alliance, elle s'appelait également le propitiatoire. Le propitiatoire. Pourquoi? Parce que c'est là qu'une fois par année, le souverain sacrificateur, le prêtre en chef, allait au-delà du voile, une fois par année, pour mettre le sang du sacrifice sur l'Arche de l'Alliance. Et ça, ce que ça faisait, ça rendait Dieu propice. Là vient le terme propitiatoire. Le sacrifice de la bête rendait Dieu propice. Propice à quoi? À pardonner et à faire grâce. Et Jésus-Christ vient comme l'agneau de Dieu pour enlever tout obstacle. Parce qu'en fait, Dieu veut nous faire du bien. Dieu est bienveillant. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on le reçoive? C'est nos péchés. Mais Jésus-Christ est venu et il a changé le trône de jugement en trône de grâce. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oups, je pensais que je l'avais mis. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis, nous dit la parole. 2 Corinthiens 8, 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. La grâce veut le bien de l'autre. La grâce veut communiquer une faveur. La grâce veut enrichir l'autre. La grâce est cette attitude favorable à notre égard qui a poussé le Seigneur Jésus à quitter le ciel, à devenir un enfant dépendant, totalement sans défense, à vivre et expérimenter tout ce dont toi et moi nous expérimentons, à être rejeté, trahi, condamné comme un criminel et exécuté par le moyen le plus horrible connu, tout parce qu'il voulait t'enrichir. Wow! Tout parce qu'il voulait t'enrichir, nous dit Paul. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Enrichis de quoi? D'argent? De biens? Bien coûteux? D'un cercle de famille, d'amis qui t'admirent? D'un statut dans la société? Non. Enrichis d'une relation avec ton Père. Enrichis d'un nouveau statut, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. te remettre en relation avec un Dieu qui est favorable à ton égard. Donc, vois-tu que la grâce, oui, Dieu l'a déployée pour te pardonner de tous tes péchés lorsque tu t'es tourné vers lui comme sauveur. J'espère que c'est ton cas. Mais ce n'est pas un seul événement. C'est quand on parle de la grâce, on parle souvent du jour où on a cru au Seigneur Jésus et puis que j'ai été pardonné, gracié de tous mes péchés. Oui, c'est vrai. Mais la grâce, elle est là constamment. À tous les jours, j'ai besoin d'être pardonné. Mais à tous les jours, j'ai besoin d'être soutenu aussi. Paul dit à Timothée, « Puise tes forces dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Donc, c'est quotidien, c'est continu, mes amis. La faveur de Dieu, si tu es en Christ, repose sur toi. Pensez. Moi, quand quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit, « Wow! » La grâce de Dieu, la faveur de Dieu repose sur moi. Non, ça se peut pas parce que il y a des journées que je suis pas fin pantoute, puis que j'oublie Dieu complètement, puis que je pense juste à moi. La faveur de Dieu repose sur moi à ce moment-là. Oui. Je bénéficie pas de sa faveur. Mais sa faveur est là. C'est moi qui empêche la faveur de m'atteindre. Hein? La semaine passée, on a dit, soit la pluie, soit le soleil, prenez l'image que vous voulez, là, ça descend du ciel, mais moi, je mets mon parapluie. C'est moi qui mets le parapluie, là. Mais la pluie est là pour me bénir, tout le temps. Il faut arrêter de penser, là, que tantôt Dieu est gracieux, puis tantôt Dieu ne l'est pas. Que tantôt la faveur de Dieu est sur toi, puis tantôt la faveur de Dieu n'est pas sur toi. Si tu es en Christ, la faveur de Dieu repose sur toi. Il n'y a maintenant aucune condamnation ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction, qu'est-ce qui reste? On a vu ça plusieurs fois, les amis. La loi de Moïse, c'était « Si tu obéis, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Mais si tu désobéis, malédiction, malédiction, malédiction. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont désobéi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Malédiction, malédiction, malédiction. Là, Jésus arrive et dit « Celui qui n'a pas connu de péché, il est devenu péché pour nous. Il est devenu une malédiction en étant cloué sur la croix. Il a pris sur lui toute la malédiction qui te revenait. » Donc, s'il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de condamnation, il reste quoi? Bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que la faveur de Dieu repose sur toi? Oui. Amen. Amen. Oui. Ouais. Amen. Et voilà, ça revient, merci, je répète. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La grâce dépend du sujet et non de l'objet. Ainsi, le sacrifice de Jésus non seulement efface tes péchés, mais enlève l'obstacle qui empêchait de profiter de la grâce de Dieu, de sa faveur. Dieu déclare juste ceux qui placent leur confiance en Jésus. Tu as changé de statut. D'un statut d'injuste, il te donne maintenant le statut de juste. Et on pourra en rajouter, bien-aimé, saint, temple du Saint-Esprit, ambassadeur pour Christ, prêtre, et j'en passe. Si ce n'est pas une attitude favorable, je ne sais plus quoi penser. Quelqu'un qui a cette attitude favorable envers une autre personne ne s'arrêtera pas aux défauts, aux manquements, aux échecs de l'autre personne. Ça ne veut pas dire qu'il va les ignorer, mais il ne s'arrêtera pas à ça. Il ne perdra pas tout à coup sa disposition favorable. Il cherchera, oui, doucement à l'aider l'autre à voir ses défauts, mais pour son bien à lui, non parce que ça m'énerve. J'ai besoin aussi, mon frère, de l'entendre. Il cherchera, oui, doucement à l'aider l'autre à voir ses défauts, mais pour son bien, non pas parce que cela l'énerve. Wow! Ça, c'est une attitude favorable. Existe-t-il vraiment quelqu'un qui ressemble à ça sur terre? Jésus était comme ça. Dieu est comme ça. Et Dieu veut qu'on devienne comme ça, toi et moi. Qu'on devienne comme ça. Parce que ressembler à Jésus dans ton caractère, c'est vraiment un bienfait énorme. Lui ressembler, là, c'est un cadeau extraordinaire, sans prix. Ressembler à Jésus. Quand on aime quelqu'un, quand on admire quelqu'un, et quand on connaît quelqu'un, puis on continue de l'admirer, là, ben on veut être comme cette personne-là. Moi, quand j'étais jeune, ado, puis vingtaine, il y avait un homme comme ça dans ma vie. Je travaillais dans des camps chrétiens, puis il y avait un médecin chrétien, et il s'appelait David en plus. Il s'appelait David. Et c'était un modèle pour moi. Et je voulais être comme lui, vraiment. Non, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Mais il se retournait constamment à Dieu, comme David. Alors, la question que je me pose et que je te pose ce matin, c'est est-ce que tu connais assez bien et est-ce que tu aimes et tu admires Jésus-Christ assez pour désirer sincèrement lui ressembler? Parce qu'il faut connaître la personne. Il faut l'aimer, la personne. Pour désirer vraiment ressembler à lui, là. As-tu cette disposition envers les autres? Es-tu une personne gracieuse? Ouais, OK. Il y avait des choses hors d'excuser. Pierre nous dit dans 2 Pierre 3:18, « Mais grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Cela signifie non seulement grandir dans la connaissance intellectuelle de la grâce que tu as reçue en Christ, mais que la grâce qui se trouve en Jésus-Christ croisse en toi. Grandissez dans la grâce. Ça veut dire devenir une personne de plus en plus gracieuse. On a vu que David avait adopté cette attitude favorable envers ces hommes qui n'ont pas été capables de suivre dans la poursuite de l'ennemi. Quelques-uns de ces autres hommes semblaient avoir adopté l'attitude que ceux-là, là, c'était des lâches ou au mieux des incapables et qui n'avaient pas leur place dans l'armée de David, le futur roi. Ont-ils été gracieux? Non, pas du tout. Avaient-ils une attitude favorable? Ce qui est douloureux à constater, là, frères et sœurs, c'est qu'assez souvent, toi et moi, nous sommes comme ça. Nous sommes inconscients de notre attitude envers les gens qui nous entourent. On a besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux par sa parole et son esprit. Dernièrement, cet été, on était dans le coin de Sherbrooke, puis je voulais acheter, quelques-uns connaissent l'histoire déjà, je voulais acheter un tuyau pour ma pompe à vélo. Et puis, je vais à la boutique de vélo. Puis, il n'y avait pas grand monde, là, et probablement que les gens étaient à vacances. Fait que j'attends au comptoir, puis finalement, un jeune homme de l'atelier sort, puis vient au comptoir, puis j'explique que j'ai besoin de ce morceau-là. Il n'est pas sûr qu'on a ça. Commence à vérifier dans l'ordinateur. OK. Là, entre-temps, est rentrée une dame, puis je la vois faire le tour du magasin, tout ça, puis elle va au comptoir ou la caisse, puis elle parle à la caissière. C'est C'est une jeune femme aussi. Puis, la jeune femme appelle le jeune homme qui me sert à l'autre bout du comptoir, puis elle dit, « As-tu trouvé la pièce pour madame? » Il me laisse là, puis il s'en va à la caisse, puis il commence à jaser là-bas. Et puis, ça dure. 5 minutes, 10 minutes. Là, il y a une petite voix qui m'a dit, « Ça, c'est pas correct. » Je vous dirai pas c'est qui, la petite voix, là. Mais disons que j'aurais pas eu besoin qu'elle me le dise, parce que je le pensais aussi. Et puis, j'ai dit, « Ouais, c'est vrai que c'est pas correct. » Fait que je m'envoie à la caisse. Et puis là, en plus, ayant fini avec la dame, il y a un autre monsieur qui arrive à la caisse avec une bouteille de je sais pas trop quoi. Puis, le jeune homme est pour le prendre, pour le scan. J'ai dit, « Tu serais pas mieux de finir de servir un client avant de commencer un autre? » Ah, il dit, « Ouais. OK, excusez. » Fait qu'on s'en va à l'ordinateur. On retourne à l'autre bout du comptoir. Et là, il y a une petite voix qui dit, je ne dirais pas c'est qui, là. La caissière, là, elle parle au gérant. Puis elle nous regarde, puis il nous regarde. J'ai dit, ah oui? Puis le gérant a dit, y a-tu manqué de respect? Puis elle a dit, non. Fait que c'est correct. Mais là, les deux bras m'ont tombé. Là, j'ai dit, ben voyons donc. À parler au gérant de moi, parce que je t'allais dire au jeune homme, tu ne devrais pas finir avec un client avant de commencer un autre. Ben voyons donc. Fait que là, j'étais pas content. J'étais fâché. Mais on sort, puis dans l'auto, j'ai dit, ben voyons donc, comment ça se fait qu'elle a parlé au gérant? J'ai pas levé le ton, j'ai pas dit de bêtises au jeune homme, j'ai pas parlé fort, j'ai pas frappé du poing le comptoir, j'ai pas envoyé des critiques acerbes sur la gestion du magasin, rien de tout ça. Mais comment ça se fait qu'elle a parlé au gérant? Bon, là, je réfléchis à ça. Ben, j'ai dit, probablement que c'était dans le non-verbal, dans mon visage. Ouais. Mais je me justifiais, j'ai dit, et puis souvent c'est comme ça, on se justifie par le fait qu'on n'a pas fait de mal. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait l'autre affaire. Fait que je suis correct, hein? Puis j'étais dans mes droits, hein? Oui, mais souvent on fait ça. On justifie parce qu'on n'a pas fait de mal. Mais il y a quelque chose que j'ai manqué de faire, de bien. C'était d'avoir une attitude de grâce. J'ai manqué de grâce. Cette attitude qui recherche d'abord le bien de l'autre. Je n'ai pas encouragé ce jeune. Je n'ai pas démontré que j'appréciais son travail. Je n'ai pas démontré de la compassion pour le fait qu'il était tiraillé entre moi et l'autre employé. Non. Je n'ai même pas pensé à son âme, qui est précieuse aux yeux de Dieu, et peut-être perdue et loin de lui. Quand je repassais la scène dans ma tête, là, il y avait une lutte. Je me justifiais d'un côté, et de l'autre côté, le Saint-Esprit me parlait, me disait, « T'avais-tu une attitude de grâce envers ce jeune homme? » Non. Oui, Rémi? Oui, j'ai manifesté de l'insatisfaction. Bon. Mais plus je réfléchissais à la situation, plus le Saint-Esprit me disait « T'as manqué de grâce » et plus je me disais « Mais c'est grave. C'est grave manquer de grâce. » Ça veut dire que comment je peux manquer de grâce quand j'ai tellement reçu de grâce? Comment je peux avoir une attitude complètement égocentrique quand Christ, lui, il s'est dépouillé en ma faveur. Puis que je bénéficie encore aujourd'hui, de plus en plus, je dirais, de sa faveur. Si on a parlé beaucoup dernièrement de vivre une vie égocentrique versus vie christocentrique. Quand on vit une vie égocentrique, on va manquer de grâce. Tu peux te justifier que tu n'as pas fait de mal, mais tu n'as pas eu l'attitude que Dieu veut voir. Croissez dans la grâce. Grandissez dans la grâce. Que la grâce de Jésus-Christ grandisse, que tu deviennes une personne de plus en plus gracieuse. Assez souvent, lorsque je cherche à comprendre le sens d'un terme, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je tente d'imaginer son contraire. Donc, le contraire de la grâce, dans mon esprit, c'est quoi? C'est de la dureté au lieu de la compréhension. C'est le jugement au lieu du pardon. C'est l'indifférence à l'autre au lieu de chercher l'intérêt de l'autre. C'est la critique au lieu des encouragements. C'est le rejet au lieu de l'accueil, de l'acceptation. C'est le mépris au lieu d'honorer, chercher à honorer. C'est la disqualification au lieu de chercher à aider la personne à se qualifier. Il y a un monde de différence, hein? Vraiment un monde de différence. Dans la vie de David, je crois qu'une des choses qui fait que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est qu'il démontre cette attitude de grâce à plusieurs endroits, plusieurs moments dans sa vie. Quand on lit la suite des événements, on est rendu dans 1 Samuel 30, 31 et 2 Samuel maintenant. Et je vais sauter par-dessus des choses, on ne regardera pas tous les détails, mais résumé, les Philistins sont allés à guerre, David, ses hommes sont à Tsiklag. Les Philistins remportent une victoire cuisante sur Israël et Saül et son fils Jonathan sont tués dans la bataille. Est-ce que David se réjouit de la mort de son ennemi Saül? Non. Non. Il cherche à l'honorer. Écoutez, là, s'il y a quelqu'un qui a empesté la vie de David, là, c'est Saül. Il lui a menti, il a trahi, il avait promis sa première fille, non, il a donné la deuxième. Il a été violent, cherché à le tuer plusieurs fois avec sa lance. Il l'a traqué comme un chien. Il l'a fait vivre comme un chien dans l'arrière-pays. Pendant des années, là, David a subi des choses de la main de Saül épouvantables. T'as déjà vécu de la méchanceté dans ta vie? Oui, moi aussi. Mais là, c'est un autre niveau. Vraiment, là. Et David, il ne rappelle pas à la mémoire et à tous ses chums toutes les actions répréhensibles de Saül. Les mensonges, les trahisons, etc., etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il compose un chant funèbre qui honore Saül et son fils Jonathan. Et il ne fait pas de distinction entre les deux, là. Saül et Jonathan, il dit, qui étaient aimables pendant leur vie. Wow! Qui étaient aimés de tous. Qui soutenaient les combats de l'Éternel. Et il demande que ce chant soit chanté à la mémoire de Saül et Jonathan. Wow! Wow! Là, il apprend qu'il reste un fils à Saül qui s'appelle Ish-Boshet. Puis Abner, le chef de l'armée de Saül, fait proclamer Ish-Boshet roi d'Israël, alors qu'il savait très bien que c'est David le roi légitime. Là. Hein? C'est David loin. Abner, il savait. Là. Mais par orgueil, il va faire couronner Ish-Boshet, le fils de Saül, roi sur Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Les deux armées s'affrontent, mais Est-ce que David cherche à assassiner Ishbosheth? Non, pas du tout. La preuve, c'est que lorsque deux voyous finissent par assassiner Ishbosheth dans son sommeil à l'insu de David et viennent lui rapporter la bonne nouvelle, David les fait punir de mort pour avoir assassiné un homme innocent. Si ce n'est pas la grâce. Plus tard, on voit que David cherche à savoir s'il y a des descendants de la famille de Saül pour leur faire du bien à cause de Jonathan. Et c'est ainsi que Mephibosheth, un fils de Jonathan, va entrer vivre au palais de David et manger continuellement à sa table comme un de ses propres fils. Grâce, attitude favorable. Cherche le bien de l'autre. Non pas en fonction de ce que l'autre a pour lui, qu'est-ce qu'il avait Mephibosheth pour offrir à David, absolument rien. Mais ce que l'auteur a, c'est-à-dire une attitude favorable. Celui qui est gracieux, il l'est parce qu'il a reçu de son Père céleste tout, par grâce. Il est convaincu lui-même de jouir de la faveur inconditionnelle de Dieu. Tu es convaincu. C'est ce qui permet que tu peux être aussi favorablement disposé à tous ceux qui t'entourent, même ceux qui t'énervent. Fais un petit rappel ici. Est-ce que tu pries à tous les jours pour être transformé à la ressemblance du Christ? Est-ce que tu pries ça? À part toutes les prières qu'on peut faire tous les jours pour la santé, nos enfants, notre travail, nos besoins, un véhicule qui a brisé, toutes ces choses-là, on amène notre liste d'épicerie à Jésus, à Dieu. C'est correct aussi, oui, mais il y a des requêtes spirituelles, frères et sœurs, qui sont beaucoup plus importantes. Priez de ressembler à Jésus plus aujourd'hui. Priez de devenir une personne plus gracieuse. Ça, là, ça, c'est une requête spirituelle. Ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Et si tu ne fais pas ça, bien, tu es en train de vivre ta vie de façon égocentrique. Après l'événement dans la boutique Vélo, peut-être deux ou trois jours plus tard, j'ai fait un rêve. Et puis, les rêves, il faut faire preuve de discernement. Hein? Ça peut avoir différentes sources. Mais je vais vous raconter mon rêve. Dans mon rêve, j'étais un soldat avec une compagnie de soldats. On avait tous des mitrailleuses, des mitraillettes dans nos mains. Et dans mon rêve, on avait réussi à contourner l'ennemi par l'arrière sans qu'il s'en aperçoive. Et là, on descendait, l'ennemi, c'était facile. Il était complètement vulnérable, complètement sans couvert, puis tac, 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 on les descendait. Trop facile. Mais, tout à coup, le chef de l'autre armée nous aperçoit, se retourne vers nous et commence à marcher vers nous. Il n'est pas armé. Il est grand, plus grand que tous, mais pas menaçant. Et surtout, il est complètement sans crainte. Il marche vers nous. Nous sommes tellement saisis, mes compagnons et moi, de son attitude, qu'on ne tire pas sur lui. Il arrive auprès de nous. Il nous parle, mais sur un ton doux. Qu'est-ce que vous faites là? C'est facile de tirer sur du monde sans défense. Et vous pouvez le faire. Mais savez-vous que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Ses yeux sont pleins de compassion, de bonté, aucune trace de menace. Il continue de nous parler avec tellement de grâce que nous laissons tomber volontairement nos armes. Et nous restons totalement ébahis devant un tel personnage. Complètement conquis par sa grâce. Je me réveille. C'est quoi ce rêve-là? Qui est ce personnage qui peut parler avec tellement de grâce que toute une compagnie de soldats aguerris laisse tomber leurs armes et cesse de combattre? C'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. C'est Jésus. Wow! Et j'étais frappé, complètement abasourdi par la grâce, la révélation de la grâce de Jésus. C'est facile de tirer sur les autres. On les descend. Pas avec des balles, mais avec nos paroles et notre attitude. Est-ce vraiment possible de devenir une personne gracieuse comme ça, au point où je gagne les âmes par une attitude tellement douce et gracieuse qu'elles désirent changer de camp et céder leur vie à Christ? Oui, c'est possible. Par la puissance du Saint-Esprit. Si tu le veux. Si tu le désires de tout ton cœur. Ce matin, ce chef, Jésus, t'appelle à te ranger derrière lui, à devenir comme lui. La bénédiction dans l'Ancien Testament que Dieu a donnée à Moïse pour les enfants d'Israël, c'est que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Et je pensais à ça, que l'Éternel tourne sa face vers toi. Mais j'ai dit, en fait, Seigneur, c'est un peu comme le soleil qui tourne autour de la terre. Est-ce que le soleil tourne autour de la terre? Non, c'est la terre qui tourne, qui fait qu'on, pour nous, c'est comme si le soleil tournait. Je crois que c'est la même chose avec Dieu. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, là, en fait, c'est que lui, là, il a 360 degrés, il est toujours tourné vers nous, mais c'est que moi, il faut que je me tourne pour recevoir sa grâce. Et moi, je perçois qu'il tourne sa face vers moi, mais c'est moi qui s'est tourné vers lui. La grâce, les amis, c'est une attitude. C'est une disposition du cœur de Dieu envers toi, manifestée en Jésus-Christ. Un cœur qui bat pour Dieu est un cœur qui expérimente la grâce, la faveur de Dieu et adopte cette même attitude envers les autres. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la révélation de ta parole ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur, de te révéler à nos cœurs par ta parole, grâce à ton esprit. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous de manquer de grâce. C'est grave. Mais on veut être des personnes, Seigneur, qui ont ce caractère de Jésus-Christ, cette disposition du cœur de Jésus pour lui ressembler. Fais cette œuvre en moi, Seigneur. Fais cette œuvre en nous, pour la gloire de Jésus. Amen.